Chapitre 10. Anna. Depuis que j'ai repris le boulot au cabinet, en toute honnêteté, j'ai la tête ailleurs. Du côté de Lesa. Je sais parfaitement que des centaines d'autres candidats doivent se succéder avant que l'étape suivante ne soit enclenchée, mais la patience n'est pas mon fort. J'en viens presque à regretter de ne pas avoir reçu de nouveaux mails anonymes. Aussi ai-je sauté sur l'occasion lorsqu'un mois après Hambourg, Sarah Miller, une thésarde de la Sorbonne, m'a contactée afin de parler de mon engagement dans la course aux étoiles. C'est le terme qu'elle a employé.
Ma thèse porte sur l'invisibilisation des femmes dans les sciences et sur la manière dont les choses évoluent. J'ai décidé d'inclure un volet aérospatial et de profiter du processus de sélection de l'ESA pour interroger des candidates. J'ai pu en rencontrer certaines à Hambourg, mais j'ai besoin de recueillir d'autres témoignages. Seriez-vous d'accord pour une interview?
Évidemment que j'étais d'accord. Je lui ai proposé de faire ça en visio, mais quand elle a su où je vivais, elle a insisté pour venir en personne. J'ai un petit budget déplacement, j'ai des amis à Arles. Je peux passer vous voir un vendredi après-midi et enchaîner avec un week-end provençal. Vendredi 5 novembre, je ferme donc exceptionnellement mon cabinet à 15h afin d'accueillir Sarah Miller chez moi. D'après la voix et le nom, j'avais bien saisi l'origine anglo-saxonne. Mais puisqu'il s'agissait d'une thésarde, je m'attendais à quelqu'un d'assez jeune. Lorsque j'ouvre la porte, je suis surprise de voir débarquer une belle femme d'une soixantaine d'années à la chevelure d'un joli gris assumé. Sarah me salue, puis me dit « Je sais, j'aurais dû vous prévenir que je ne correspondais pas à l'image que l'on se fait d'une doctorante. Mais c'est bien là l'objet de ma recherche. Quelle est l'image que l'on se fait d'une doctorante ?» Elle ajoute un clin d'œil et un grand sourire à sa dernière phrase. Et moi, je suis mortifiée de m'être laissée envahir par mes idées préconçues. Tandis que je lui propose un thé qu'elle accepte avec joie, elle m'explique avoir été femme au foyer toute sa vie et avoir décidé, après un divorce douloureux, d'enfin mener à bien les études dont elle rêvait. De fil en aiguille, la voilà en thèse, ce qui la ravit. La discussion est passionnante. Sarah me raconte notamment comment, dans les années 60, les hommes ont bloqué les candidatures des femmes, considérant contre l'évidence scientifique qu'elles seraient moins aptes à devenir astronautes. À la fin des années 50 aux États-Unis, un programme baptisé Mercury 13 a sérieusement étudié la possibilité d'envoyer des femmes dans l'espace. Et les conclusions étaient sans appel. Les femmes auraient, de manière pragmatique, constitué de meilleurs astronautes que les hommes. L'étude mettait en avant plusieurs arguments factuels. Ces femmes candidates étant plus légères et consommant moins d'oxygène que les hommes, la charge de carburant nécessaire pour les propulser aurait été moindre. Idem pour les risques de crise cardiaque nettement diminués chez les femmes. Par ailleurs, les candidates du programme Mercury 13 ont été soumises, comme leurs homologues masculins, à des tests de privation sensorielle dans le but d'éprouver leur endurance psychologique. Les meilleurs ont tenu 10 heures contre 3 pour l'homme le plus résistant. Mais tout cela a été balayé par le gouvernement de l'époque, qui a décidé de ne recruter les astronautes qu'au sein des pilotes militaires, corps auxquels les femmes n'étaient pas autorisées à appartenir. Je ne connaissais pas ces éléments, mais je ne suis pas étonnée. J'étais tombée il y a quelques années sur le témoignage de Sally Ride, la première astronaute américaine envoyée dans l'espace en 1983 seulement. Lors de la préparation de sa mission, les ingénieurs de la NASA lui avaient sérieusement suggéré d'emporter 100 tampons pour une semaine et lui avaient concocté un kit de maquillage qu'elle avait refusé tout net. Même sexisme de la part des médias, qui l'assaillaient de questions du style « Renonceriez-vous à être astronaute si vous rencontriez l'homme parfait ?» Vous savez, Sarah, en médecine aussi, je suis sans cesse confrontée au sexisme ordinaire. Je ne compte plus les fois où, accompagné d'un infirmier, le patient, ou la patiente d'ailleurs, pose naturellement ses questions à l'homme, persuadé que c'est lui le médecin. Tout ça serait presque drôle si cela n'aboutissait pas à une discrimination avérée liée au genre. Pour ce qui est de l'espace, la statistique est claire. À ce jour, seules 65 femmes sont allées dans l'espace, soit 10% des astronautes. Et le comportement de certains hommes reste problématique, notamment dans les anciennes générations. Quel astronaute avez-vous rencontré à Hambourg lors de votre session de recrutement ? Ted Hansen. Sarah marque un temps d'arrêt, puis dit simplement. Eh bien, Ted Hansen, justement. Ce n'est pas le seul, mais puisque vous le connaissez, Hansen a été poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel dans les années 80. Elle pianote quelques instants sur son téléphone, puis me le tend. Je découvre un article, issu d'une revue sérieuse, relatant en quelques paragraphes ce qui est reproché à Hansen. Harcèlement sexuel et moral sur deux femmes, secrétaires de la NASA. Je suis étonnée. Ce qui est raconté ici ne correspond pas à l'image qu'il dégage au premier abord. Ted Hansen est un redoutable communicant, un charmeur. Les femmes ont retiré leur plainte, il a été blanchi, mais des soupçons d'arrangement négociés avec les plaignantes subsistent. Bref, si vous voulez mon avis, Ted Hansen est le genre d'individu dont il vaut mieux se tenir éloigné. Cette dernière phrase éveille en moi une idée qui finalement me rassure. Sarah Miller est-elle la personne qui m'a envoyé le message d'avertissement ? Peut-être s'est-elle donné pour mission de protéger un maximum de femmes candidates ? Mais dans ce cas, Nabila aurait reçu un mail similaire. Je tente tout de même. Sarah, avant de me contacter par téléphone pour l'interview, avez-vous essayé de me joindre par mail ? Non ? Je préfère expliquer mes recherches de vive voix. C'est moins fastidieux et plus pratique. Pourquoi ? J'ai reçu un mail dont j'ignore l'expéditeur, mais ça n'a pas d'importance. Encore loupé, donc. Sarah sourit maintenant. Elle continue. Sur une note plus positive, tout est en train de changer. Je suis persuadée que la femme est l'avenir de l'homme dans l'espace. D'où ma présence ici aujourd'hui. Je veux tout savoir de ce qui vous pousse à vous lancer dans cette aventure, de la manière dont votre famille perçoit ce projet, notamment votre mère, puisque l'on parle de parcours de femme. J'ai dû changer de visage à l'évocation de ma mère, car Sarah s'arrête, sentant probablement mon malaise. Anna, si vous ne voulez pas parler de certaines choses, vous êtes entièrement libre, bien évidemment. Il n'y a pas de tabou, ne vous inquiétez pas. Concernant ma mère, elle est morte quand j'étais toute petite. Et malgré sa passion pour les astres, elle n'était ni scientifique ni cartésienne. Je suis désolée, Anna, je ne voulais pas. Aucun problème, je vous assure. Je peux en revanche vous parler en long et en large de la façon dont mon entourage m'a littéralement poussée à candidater. Et me voilà lancée dans le récit de cette soirée d'anniversaire qui l'a fait bien marrer. Je ne vois pas le temps passer à lui raconter ma vie comme ça. C'est presque thérapeutique. À la fin, elle me remercie chaleureusement et me promet de m'envoyer une copie de sa thèse. Cette rencontre m'ayant mise de bonne humeur, j'accueille la coïncidence d'un coup de fil de Nabila le même soir avec joie. Cette dernière m'appelle pour me donner deux informations. La première, c'est qu'une rencontre des extraordinaires est prévue ce dimanche à Marseille.
Une journée entière dans le parc Borély pour pique-niquer, s'entraîner pour Cologne. Et bien sûr, boire des coups de rosé, parce qu'il n'y a pas de saison pour le rosé, c'est bien connu.
La deuxième, c'est qu'en plus de Nabila et de ses trois acolytes prénommés Bérénice, Côme et Axel, le groupe s'est étoffé d'un nouveau membre, en la personne de Diego. Je suis surprise. Il ne vit pas à Barcelone ?
Si, mais il nous a dit adorer Marseille. Donc ça ne le dérange pas de faire quelques allers-retours dans les semaines qui viennent. Apparemment, il n'a pas trouvé de groupe équivalent en autre près de chez lui.
C'est-à-dire ?
Bah, un groupe avec d'aussi belles meufs !
Elle éclate de rire, puis enchaîne immédiatement.
Ok, on est ultra canon. Mais je crois qu'il voulait plutôt dire qu'il n'avait pas trouvé en Espagne de candidat qui comptait se voir dans la vraie vie pour s'entraîner sans attendre les résultats. Et puisqu'il m'a entendu parler des extraordinaires l'autre jour à Hambourg, il m'a contacté pour se joindre à nous.
Je ressens une bouffée de jalousie inattendue à l'idée que Diego ait appelé Nabila. Je secoue la tête pour chasser cette sensation, mais je ne peux pas m'empêcher de lui lancer sèchement. Oui, enfin, il te drague lourdement surtout. Nabila me répond le plus sérieusement du monde.
Il peut toujours essayer, mais il est bien trop vieux pour moi. Mon truc, c'est les petits jeunes dans la vingtaine, dont il faut parfaire l'éducation sexuelle, si tu vois ce que je veux dire. Le genre de Gary fier de coucher avec une femme expérimentée et qui ne va pas t'emboucaner si tu lui dis au revoir après quelques nuits.
J'ai un instant d'hésitation, alors elle me demande.
Ça ne te choque pas, au moins, ce que je viens de dire.
Oula, non, chacun vit sa vie sexuelle comme il l'entend. Et tu ne connais pas mon amie Bintou, elle serait tout à fait capable de tenir ce genre de discours.
Alors j'aime déjà beaucoup ton amie Bintou.
Elle rit avec moi, et puis elle insiste pour que je les rejoigne à Marseille. Je ne sais pas si c'est la perspective de revoir Diego afin d'exorciser mes pensées lubriques, celle de passer plus de temps avec Nabila, ou encore de rencontrer cette intrigante Bérénice autoproclamée chef du groupe, toujours est-il que j'accepte le pique-nique avec les extraordinaires. Espace, ton univers impitoyable. Le poids d'un poney sur Mars équivaut à celui de 3 tékels sur Terre. La masse du Soleil représente 99,9% de la masse du système solaire. Une journée sur Mercure dure environ 2 mois. Si vous y partez en week-end, mieux vaut bien choisir avec qui.